Europe 1, le 22-22-30,
Julien Peirce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Donc j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible.
Et des créneaux de vaccination disponibles, il y en a 220 000 ce soir partout en France. Une abondance qui interpelle. Faut-il autoriser dès maintenant les plus de 50 ans à recevoir une injection? Trop tôt pour Olivier Véran qui toutefois n'écarte pas totalement cette hypothèse si la situation venait à perdurer. C'est dur d'avoir 20 ans, avait dit Emmanuel Macron. Ça l'est surtout quand on est une femme. Elle représente 70% des bénéficiaires des banques alimentaires pour étudiants. Un espoir pour le monde de la culture. Un concert test à Barcelone a réuni 5000 spectateurs et à l'arrivée, aucune contamination dans la salle. Dernière ligne droite pour le plan de relance européen, la France espère obtenir 40 milliards d'euros, mais il faudra pour cela montrer patte blanche. Dans ce journal également, les pêcheurs français, toujours interdits dans les eaux britanniques, 4 mois après le Brexit, Paris menace Londres de mesures de rétorsion. Nous irons dans le Morbihan où une centaine de salariés des fonderies de Bretagne bloquent l'usine et empêchent la direction de sortir. Et puis le PSG se prépare à affronter demain Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions avec un Neymar épanoui à Paris, c'est lui qui le dit. La météo, elle va se gâter demain, ciel couvert avec des averses sur de nombreuses régions et même quelques coups de tonnerre par endroit. Quant aux températures, elles resteront stationnaires, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé quasiment à l'équilibre ce soir, moins 0,03% à 6273 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, les prix de l'immobilier baisse à Paris, en partie à cause de la crise sanitaire. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Frédéric Violot, président de l'Institut notarial de droit immobilier. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Faut-il élargir la vaccination à de nouvelles tranches d'âge? C'est la question qui se pose ce soir alors que de nombreux rendez-vous pour se faire vacciner sont disponibles dans les centres de plusieurs régions et ce, quel que soit le vaccin anti-Covid. Dans sa dernière allocution, Emmanuel Macron a fixé au 15 mai l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans, mais le gouvernement pourrait être tenté d'avancer cette date tant il y a désormais abondance de créneaux non réservés, Victor Delande.
Oui, le phénomène est bien réel. J'ai encore vérifié il y a quelques minutes. Il suffit de se rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous pour la vaccination et en quelques clics, on trouve des créneaux très facilement, notamment dans les vaccinodromes. C'est le cas au Stade de France, au Stade Vélodrome de Marseille. Selon les dernières estimations, il y a actuellement, tenez-vous bien, plus de 220 000 rendez-vous ouverts dans plus de 600 centres et ce, sur tout le territoire. L'explication est d'abord mathématique. La France reçoit de plus en plus de doses depuis quelques semaines et dans le même temps, la vaccination progresse fortement dans les tranches d'âge prioritaires. En déplacement cet après-midi à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué la marche à suivre pour remplir ces créneaux vacants.
La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Et donc, les centres disposent de fichiers de rappel des personnes qui ont pris des rendez-vous qui peuvent être lointains ou des personnes qui sont dites en liste d'attente, et notamment les personnes les plus fragiles. Donc, j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national.
Mais pour le moment, il est trop tôt pour ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 50 ans, a estimé le ministre. Ça doit être le cas à partir du 15 mai. Le gouvernement laisse quand même la porte ouverte pour élargir les cibles à vacciner si jamais il s'apercevait que ce nombre de créneaux disponibles venait à grandir dans les prochains jours.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Olivier Véran qui a fait un point cet après-midi sur l'épidémie. Elle a tendance à régresser selon le ministre de la Santé. Aucun cas de variant indien n'a à ce jour été détecté en métropole. En revanche, la part du variant sud-africain augmente depuis une grosse semaine, particulièrement en Île-de-France où il atteint désormais 10% des contaminations. Une situation sanitaire qui était au cœur cet après-midi d'une réunion entre Emmanuel Macron et une dizaine de maires. Le chef de l'État a sondé les élus concernant les perspectives de réouverture. Elle pourrait s'étaler jusqu'à juillet avec entre-temps une levée du couvre-feu début juin si possible. Voilà ce qu'aurait dit le président selon les participants à cette visioconférence. Emmanuel Macron leur aurait confié vouloir annoncer aux Français son calendrier de déconfinement le 12 mai. En attendant un retour à une vie plus normale, les Français doivent affronter deux crises intimement liées, sanitaires et économiques. On savait déjà que cette dernière touche particulièrement les jeunes. Et bien grâce à deux études menées par Copains Solidarité étudiante et l'IFOP, on apprend aujourd'hui que les jeunes les plus frappés par la précarité, ce sont les femmes, Diane Berger.
Oui, dans les files d'attente des banques alimentaires pour étudiants, 7 sur 10 sont des femmes et une vaste majorité d'entre elles n'avaient pas besoin d'être aidées avant. C'est le cas de Salomé, une étudiante en droit de Paris. Avant la crise, elle gagnait 600 euros par mois grâce à des babysitting. Depuis l'instauration du couvre-feu, son revenu a été coupé en deux.
Lorsque les prélèvements sont passés sur mon compte, il reste pas grand-chose, quoi. Il y a plein de midis où j'ai sauté des repas. J'avais juste pas d'argent sur moi, donc il y a des distributions alimentaires auxquelles j'ai participé, où j'ai pu récupérer des paniers qui me permettaient de manger, quoi.
Une difficulté que ne connaît pas son frère, qui lui est livreur à vélo. Et c'est un cas de figure classique, décrit Joanie Caillouette-Ramblière, sociologue à l'Institut national des études démographiques.
Les jeunes femmes travaillent davantage dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, qui ont été beaucoup plus impactés par la crise que des emplois manuels, de manutentionnaires, livreurs, etc., qui sont des emplois plus masculins que féminins.
Et du côté des banques alimentaires, on s'inquiète maintenant de voir des étudiantes venir demander des protections hygiéniques. 4-5 euros le paquet seulement, que les plus précaires d'entre elles n'arrivent même plus à s'acheter.
Diane Berger. À Lyon, deux frères de 26 et 22 ans sont ce soir jugés au tribunal correctionnel pour avoir organisé la fête sauvage fin mars sur les quais de Saône. Les images du rassemblement avaient fait polémique. Pas de masque ni respect des gestes barrières. Faire la fête et danser sans risque de contagion, c'est bel et bien possible, à condition de respecter certaines règles. C'est ce qu'ont démontré les organisateurs d'un concert test à Barcelone fin mars. 5000 spectateurs dans une salle fermée. Résultat des tests deux semaines plus tard, aucune transmission n'a eu lieu pendant l'événement. Angèle Châtelier, on imagine que ce concert test répondait à des critères précis.
Oui, le public avait dû faire un test antigénique avant, puis porter un masque FFP2. Pendant, mais alors il n'était pas interdit de danser debout. Tous ont refait un test PCR deux semaines après et seuls 6 cas positifs ont été détectés. Mais selon les organisateurs, pour 4 d'entre eux, la transmission n'a pas eu lieu pendant. C'est donc finalement une très bonne nouvelle.
Alors ça, c'est à Barcelone, mais en France, Angèle, on en est où ? Est-ce que ce genre d'expérimentation serait possible dans un futur proche ?
Oui, en tout cas, des professionnels du secteur y travaillent depuis des mois, à Paris et à Marseille. Récemment, l'expérience à Paris a été validée. Priorité nationale. L'idée serait de proposer un concert d'Indochine à l'Accor Hotel Arena devant 5000 personnes aussi. Toutes devront avoir été testées négatives 72 heures avant, se soumettre à un test salivaire juste avant d'entrer dans la salle, puis de profiter du concert masqué. Les bons résultats du concert test à Barcelone sont encourageants. C'est ce que nous dit Malika Seguino, directrice du Prodis, le principal syndicat du spectacle vivant, qui travaille avec l'APHP sur le concert test parisien.
De voir ce qui se passe à côté de nous est très encourageant pour ce qui nous concerne, puisque effectivement, n'oublions jamais que ce projet, c'est pas juste de se retrouver à une certaine date X en mai pour faire des expérimentations scientifiques, c'est aussi pour organiser la reprise, pour se donner une chance de revoir notre spectacle debout et de réunir notre public.
Et pour l'instant, l'hypothèse sur laquelle il travaille, c'est un concert test qui aurait lieu à Paris fin mai.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. Le chômage en France au premier trimestre recule, selon l'INSEE, une baisse de 0,4%. 3 800 000 personnes sans aucune activité, c'est le troisième trimestre consécutif de baisse. La poursuite de l'activité partielle reste à un niveau très élevé. En mars, 2 300 000 salariés étaient pris en charge par ce dispositif. Des aides très coûteuses pour les finances de l'État, voilà pourquoi le gouvernement attend avec impatience le déblocage du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, histoire de se donner un peu d'air et de retrouver des marges de manœuvre pour relancer l'économie. La France doit recevoir 40 milliards d'euros et présentera demain son programme d'investissement à Bruxelles qui ne compte pas donner à Paris un chèque en blanc, Carole Ferry.
Et non, il y a des règles à respecter. En effet, première obligation, il faut prouver que l'argent permettra de relancer l'économie avec des mesures vertes. De ce point de vue-là, la France prévoit de consacrer 37% des fonds à la transition écologique, notamment grâce aux aides pour la rénovation énergétique. Le reste doit servir à financer la compétitivité des entreprises, la transformation numérique ou encore l'emploi des jeunes. Il y a également une deuxième obligation. Prouver qu'une fois la crise passée, nous pourrons assainir nos finances publiques et réduire notre déficit. Sur ce point, la France promet une loi qui permettra de mieux encadrer les dépenses de l'État. Elle met en avant également la réforme de l'assurance chômage. Sur la réforme des retraites, ce serait un gage pour Bruxelles, mais pas forcément une bonne idée avant la présidentielle. Le dossier tricolore suffira-t-il à convaincre ? La Commission européenne se laisse plusieurs semaines de réflexion. Trop long à fustiger aujourd'hui Bruno Le Maire. Selon le ministre de l'économie, il faut aller le plus vite possible pour que l'argent soit versé dès cet été et qu'on limite notre retard sur la reprise aux États-Unis et en Chine.
Carole Ferry, d'Europe, il en est encore question avec le Brexit, ce feuilleton interminable aux multiples rebondissements. Sauf surprise, le Parlement européen devrait ce soir ratifier définitivement l'accord commercial conclu avec Londres, ultime étape d'une séparation houleuse. Eh bien non, vu que cet accord signé il y a 4 mois n'est toujours pas mis en œuvre sur la pêche. La France a aujourd'hui menacé le Royaume-Uni de mesures de rétorsion car depuis janvier, de nombreux pêcheurs français attendent toujours de pouvoir lancer leur filet dans les eaux britanniques, Nicolas Feldman.
Oui, puisque pour cela, nos pêcheurs français doivent désormais posséder des licences indispensables depuis le Brexit pour pêcher de l'autre côté de la Manche et ainsi accéder à une zone très riche en poissons. Mais voilà, à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, seuls 22 bateaux sur 120 ont obtenu leur autorisation. Christophe Lormel attend encore la sienne.
Ça devrait faire plus déjà d'un mois qu'on devrait être dans les eaux anglaises et on n'a toujours pas cette fameuse licence pour aller pêcher là-bas. Ça fait un manque à gagner par toute la flottille. Et même, on ne peut pas continuer à pêcher dans une petite zone que ça, comme dans les zones françaises, quoi. Parce que on est en train de pêcher tous les poissons, tout le monde dans la même zone. On espère surtout, c'est que l'Union européenne et la France vont faire appliquer ce qui a été écrit dans le décret.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni continue de bloquer. Il faut aller au bras de fer, nous dit un conseiller ministériel. Arracher une à une les autorisations. Une vingtaine de licences devraient être débloquées dans les prochains jours. Pas assez pour Paris qui menace donc Londres de mesures de rétorsion dans d'autres secteurs que la pêche. Cela pourrait par exemple concerner les services financiers.
Explication signée Nicolas Feldman. Eux aussi sont en colère. Une centaine de salariés de la fonderie de Bretagne, mise en vente par Renault, bloquent depuis ce matin leur usine de Caudan dans le Morbihan. Ils demandent leur maintien au sein du groupe et pour que leur message soit bien entendu, ils empêchent des membres de la direction de sortir des locaux. Charles Guyard, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, depuis 10h ce mardi matin, les machines sont arrêtées ici et 7 membres de la direction sont effectivement confinés dans un bureau avec interdiction de sortir du site devant lequel le mot trahison est d'ailleurs inscrit sur 2 grands panneaux. Ce blocus, c'est la conséquence du lâchage de Renault, alors même que la marque aux losanges avait promis l'été dernier de maintenir l'usine dans son giron industriel pour les 340 salariés. C'est l'exaspération.
Nous, on veut tourner en 3-8, on veut du boulot. On demande pas plus ? Mais Renault n'est même plus crédible avec nous. Ils sont jamais contents. On fait jamais assez, on est trop cher. Qu'ils assument.
L'idée, nous, c'est d'attendre la direction, voir la réaction qu'ils ont par rapport à ce qui se passe. Là, ça fait 1 an qu'on attend. Faut avoir une réponse claire, quoi.
Une réponse claire ou au moins un mot, ce sera finalement le silence qu'observera Jean-Luc Bois, le directeur général, lorsque celui-ci a finalement pris l'initiative avec sa garde rapprochée de sortir à 20h45.
Vous discutez, il faut du dialogue, social. Rassurez-nous.
Vous sortirez pas.
Sans un mot, les membres de la direction ont donc rebroussé chemin pour retourner dans leur bureau, étrangement éteint d'ailleurs depuis, malgré la nuit tombée. Peut-être ont-ils finalement quitté les lieux par une autre sortie. En tout cas, l'équipe de nuit, elle, est en train d'arriver avec les mêmes intentions, la même détermination que leurs collègues de jour, ne rien lâcher.
Charles Guyard à Caudan dans le Morbihan pour Europe 1. Emmanuel Macron assistera jeudi aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police assassinée vendredi par un terroriste au commissariat de Rambouillet. C'est dans cette ville des Yvelines que le Premier ministre Jean Castex se présidera vendredi une cérémonie d'hommage national.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Si ce monde ne tourne plus rond, les ballons de foot, eux, sont épargnés. Première demi-finale ce soir de Ligue des Champions. Le Real Madrid est en train d'affronter à domicile les Anglais de Chelsea. Et pour l'heure, il y a un partout, 57e minute de jeu. L'autre demi-finale se jouera demain soir au Parc des Princes, PSG-Manchester City. Un choc évidemment très attendu. Et pour l'occasion, Neymar est sorti de son silence. Le Brésilien qui, habituellement, boude les journalistes français, s'est présenté tout à l'heure en conférence de presse et c'est en soi un événement, Julien Froment.
Effectivement, cela faisait 2 ans et demi que Neymar n'avait plus participé à un point presse. Le Brésilien, bien dans ses crampons, n'a esquivé aucune question, même concernant son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2022. Alors, pas d'annonce concernant une éventuelle prolongation de contrat, mais une certitude, Neymar se sent comme chez lui au Paris Saint-Germain.
J'ai déjà dit que j'étais heureux ici à Paris. Je me sens bien mieux que les 2 dernières années. Je suis de plus en plus à l'aise.
Un Neymar souriant, sérieux, concentré sur les objectifs du Paris Saint-Germain de cette fin de saison. Il sent d'ailleurs son équipe capable de remporter la Ligue des Champions.
Quand j'ai signé au PSG, la priorité était claire. Remporter la Ligue des Champions. L'an passé, on en a eu l'opportunité en atteignant la finale. C'était la première fois dans l'histoire du club. On fait partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Cela signifie que le travail paye de plus en plus.
Aucune fausse note de communication. On attend désormais de Neymar un nouveau récital demain soir au Parc des Princes contre Manchester City. Le PSG, là aussi, c'est quasiment une anomalie, est au grand complet pour cette demi-finale aller. Le capitaine Marquinhos s'est entraîné normalement. Kylian Mbappé, victime d'une béquille le week-end dernier à Metz, est lui aussi à 100%. Il le faudra, hein, car en face, Manchester City n'a toujours pas perdu le moindre match cette saison en Ligue des Champions.
Merci Julien Froment qui nous fera vivre ce PSG Manchester City demain soir. Match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, édition spéciale à partir de 20h, aux côtés de Lionel Rousseau. La météo, Anissa Haddadi, le temps demain va se dégrader.
Oui, avec une journée beaucoup plus humide, Julien. En effet, demain, dès le lever du jour, de l'Occitanie jusqu'au Grand Est, en passant par le Massif Central, la Provence, le Lyonnais, dans toutes ces régions, il pleut. Dans le centre Val-de-Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France et les Ardennes, là nous avons un temps encore sec, encore un petit peu ensoleillé. Profitez-en demain matin parce qu'au fil des heures, les pluies et les orages vont se généraliser avec des coups de tonnerre effectivement assez fréquents dans l'après-midi demain. Des Pays de la Loire à la Gironde, des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Alpes-Maritimes, seulement dans ces régions, le temps reste sec. Partout ailleurs, pensez à votre parapluie, les averses seront fréquentes. Du côté des températures, nous aurons moins 1 degré à Charleville-Mézières, 3 à Rennes, 5 à Lille et Strasbourg le matin, 8 pour Paris et déjà 12 degrés à Nice. Dans l'après-midi, de la douceur, hein, même sous ces nuages et ces averses, avec 12 degrés à Dunkerque, 14 à Rodez et à Caen, 18 degrés pour Nice et Angoulême, 19 à Bastia et Besançon, 21 degrés pour Paris et 23 pour Strasbourg.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les prix de l'immobilier baissent à Paris. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Frédéric Violo, président de l'Institut notarial de droit immobilier. A tout de suite sur Orbe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street hésite avant la réunion de la réserve fédérale américaine.
Oui, pas de tendance claire. Le Dow Jones est stable, 33 985 points. Le Nasdaq en légère baisse, moins 0,34% après son record d'hier. On revient à 14 090 points, toujours à l'écoute des résultats trimestriels des sociétés cotées. Et en attendant, le verdict de la réserve fédérale américaine, ce sera demain soir, qui pourrait préparer le terrain à un début d'inflexion de sa politique monétaire au rythme de la reprise économique américaine. Ça donne beaucoup d'hésitation sur les valeurs de technologie ce soir en particulier. Apple, moins 0,1%, Amazon, plus 0,3%, Microsoft, plus 0,2%. En revanche, ça baisse sur Netflix, moins 0,9%. Tesla, qui réagit mal finalement aux chiffres annoncés hier soir, aux résultats trimestriels. Tesla perd 4,5%. Google en légère baisse, mais Google monte après la clôture, puisqu'on vient d'apprendre un chiffre d'affaires trimestriel du groupe en hausse à 55 milliards de dollars, un bénéfice net triplé pratiquement. Google au plus haut historique, en fait, au-dessus des 2400 dollars ce soir, post-clôture, comme on dit. Le pétrole remonte de 2%, 63,20 $ le baril WTI et l'euro campe toujours au-dessus des 1,20. 1,20,90 face au dollar.
La Bourse de Paris a elle aussi fait du surplace dans un marché calme.
Moins 0,03%. Il ne s'est pas passé grand-chose. 6273 points sur le CAC 40. Toujours à l'écoute des résultats trimestriels des entreprises, ici aussi. On a EDF quand même qui s'est plutôt agité autour de 12,16 € plus 5%. Encore beaucoup de spéculations sur l'avenir du groupe qui passerait par un retrait du marché d'EDF, mais aussi par une privatisation d'EDF Green qui regrouperait les énergies renouvelables et Enedis. Et puis les banques qui restent fermes, Crédit Agricole plus 1,5%, Société Générale plus 2%, BNP est stable, Schneider aussi plus 0,7%. Le groupe a réalisé un premier trimestre soutenu et revoit en hausse ses objectifs 2021.
Exception du jour, Alten s'est distingué après de bons résultats trimestriels.
Très grosse animation autour d'Alten, qui gagne 5,4%, 107,20 €. Au premier trimestre, le groupe de conseil en haute technologie a confirmé un rebond de son activité. De quoi revoir ses prévisions de chiffre d'affaires 2021 à la hausse. de 2,49 milliards d'euros à 2,59 milliards d'euros. Donc Alten en hausse, forte hausse de 5,4% ce soir à 107,20 €. Les autres places financières sont en baisse partout. Le DAX, -0,3, de petites baisses. Hein. Bruxelles, -0,5%. Milan, -0,1. Et le CAC 40 en baisse timide de 0,03%. 6 273 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de Boursier.com. Et à jeudi, puisque demain, soirée spéciale foot sur Europe 1, demi-finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Maître Frédéric Violo.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'Institut Notarial du Droit Immobilier. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que les notaires de France viennent de publier une étude sur ce qui s'est vendu en 2020. Et puis surtout, c'est ça qui est le plus intéressant. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Alors sur 2020, on va dire que les ventes ont été très correctes en regard de la situation économique, puisque entre guillemets le recul n'a été que de 4% sur l'année 2020. Et ce qui est impressionnant, c'est que la demande sur les premiers mois de cette année reste extrêmement vive, au point qu'on a même réduit cette baisse si on regarde sur un an.
Oui, tout à fait. On a réduit cette baisse sur un an puisqu'on va totaliser à fin février 2021, donc de février 2020 à février 2021, une baisse de 2,3% seulement, ce qui représente 1 046 000 transactions. Alors, c'est quand même une référence qui est intéressante parce qu'elle fait suite à un chiffre qui était très fort déjà, qui était celui de l'année 2019. Hein, qui était.
Mais c'est ça, là, on compare par rapport à des années tout simplement records.
Oui, tout à fait. On se compare par rapport à des années records et on est sur une année 2020 qui intégrait quasiment 2 mois d'arrêt complet d'activité entre le 16 mars 2020 et le 11 mai. Donc, on peut considérer que, en réalité, le volume aurait peut-être pu être supérieur s'il n'avait pas eu cet arrêt total d'activité qu'on comprend bien compte tenu des circonstances, évidemment.
Alors, on va entrer un petit peu dans le détail parce que cette étude est passionnante. Paris a perdu sa place de leader dans l'augmentation des prix. Et même, et là, ça y est, c'est enfin confirmé par les chiffres, la baisse est même enclenchée à Paris. Alors, elle est minime. Hein. On passe de 10 850 euros le mètre carré à 10 600 euros le mètre carré. Mais malgré tout, ça y est, les prix baissent à Paris, on peut le dire.
On peut le dire, on perçoit effectivement sur Paris intramuros un atterrissage. Alors, on ne pense pas que ça amorce une chute vertigineuse, pas du tout, c'est pas le propos, mais bon, les faits sont là. Et ce qu'on appelle dans notre jargon les indicateurs avancés des avant-contrats, c'est-à-dire l'analyse des prix inhérents aux compromis de vente et aux promesses de vente qui arrivent à l'étude, dans nos études, confirment cette amorce de baisse.
Alors, et si ça baisse, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de demandes à Paris. Est-ce que ça s'explique par la crise, dans le sens où quelques Parisiens se sont dit « on n'en peut plus, on veut aller vivre plus loin de Paris, on veut aller vivre dans des villes moyennes et donc on déménage ». Est-ce que c'est ça qui l'explique en partie?
Alors, vous avez employé le bon mot, en partie. Loin de nous l'idée de scander une impression d'exode urbain, c'est pas du tout le propos de nos statisticiens ni le nôtre. En revanche, il est vrai que ce paramètre-là s'ajoute à d'autres. Il y a eu une envie de verdure qui a été initiée lors du premier confinement il y a maintenant un an. On a tout d'abord pensé que c'était une réaction au sens physiologique du terme, c'est-à-dire que voilà, dans une situation de blocage et de lockdown qui était très dur, les gens ont eu envie effectivement de sortir de leur appartement et donc envie d'une terrasse ou envie d'un jardin. Mais on s'aperçoit un an plus tard que cette envie de vert, elle est toujours présente. Donc ça n'a pas été qu'une réaction. On pense plutôt que ça a été aujourd'hui un accélérateur d'une décision peut-être de vivre un petit peu autrement et que ça dure, ça semble plus pérenne.
Et il y a un élément qui semble le prouver, c'est-à-dire que les ventes d'appartements dans les grandes métropoles sont plutôt en repli, alors que les ventes de maisons, alors qu'on dit que traditionnellement les ventes de maisons l'hiver se portent pas très bien, et bien les ventes de maisons augmentent fortement dans les grandes villes ou en tout cas à la périphérie des villes moyennes.
Alors, à la périphérie des grandes villes et également sur les villes moyennes. Plus généralement encore, le phénomène nouveau qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, c'est que aujourd'hui, le prix des maisons augmente aussi vite que celui des appartements. Sur un an, c'est un constat qui est clair, alors qu'habituellement, c'est plutôt au contraire. Les prix des appartements, ils galopent un petit peu plus vite que ceux des maisons. C'est la tendance inverse qui s'affirme et effectivement, une appétence pour la maison, pas forcément aussi centrale que ce qu'on aurait imaginé il y a quelque temps, mais plutôt en périphérie d'un centre urbain, parce que ben, je vais avoir un prix qui va être plus facile à atteindre en fonction de ma capacité d'emprunt aussi, et puis parce que voilà, j'ai cette envie de verdure et d'un petit peu plus d'espace. On peut aussi imaginer que les effets du confinement et le déploiement des solutions de télétravail ont pu inciter les gens à concevoir leur manière de travailler et de vivre autrement, et qu'aujourd'hui, la notion de résidence secondaire soit un peu galvaudée, si vous voulez. C'est plus seulement le lieu de villégiature, c'est peut-être un peu la résidence bis, quoi.
Oui, c'est ça. On parle de plus en plus, je crois, dans votre secteur, d'hybridation de la résidence secondaire, c'est-à-dire qu'elle devient un peu la résidence principale et potentiellement, on habite dans plus petit dans notre grande ville quand on a besoin d'aller travailler. Mais ce qui vient là encore confirmer ce mouvement, qui est un mouvement quand même assez impressionnant, il faut bien le dire, c'est que par exemple, certaines grandes métropoles comme Bordeaux, comme Rennes, je crois, comme Nantes, voient leur prix baisser intramuros parce que là aussi, c'était tout simplement devenu trop cher.
Oui, c'est un point important. C'est pour ça que l'idée de l'exode urbain et de l'envie de vert, conséquence du confinement, c'est une idée qui est un petit peu courte à elle toute seule. Ça a participé, si vous voulez, d'un mouvement qui est un mouvement d'extension à l'extérieur des centres, mais c'est aussi une question de pression foncière et d'augmentation de prix. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années que dans les grands centres urbains, les prix ont augmenté de manière quasiment continue. On le vérifie encore à la lecture de nos chiffres de la fin d'année 2020, où on s'aperçoit que les prix ont augmenté à peu près partout sur le territoire français dans les grandes métropoles. Alors jusqu'alors, on avait l'habitude de dire que la baisse des taux d'intérêt permettait de porter l'augmentation des prix, puisque ce que je n'allais pas mettre dans les intérêts, je pouvais le mettre dans le capital. Donc évidemment, à échéance constante, je pouvais supporter une hausse de prix. Sauf que cette baisse de taux, il y a un moment où elle s'arrête.
C'est-à-dire même si là, le mois d'avril 2021 devrait être à nouveau le plus bas historique de toute l'histoire. À chaque fois qu'on dit ça va remonter, à chaque fois il y a une petite baisse. Alors on est quasiment dans l'épaisseur du trait, hein.
Tout à fait, on est dans l'épaisseur du trait, mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a atteint un seuil bas. Alors après, que le taux bouge d'un millimètre en plus ou en moins, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de constater que on était sur des effets de baisse progressive de taux qui, effectivement, permettaient de supporter une augmentation de prix. Là, à partir du moment où on est arrivé sur des seuils qui sont très bas, mais constamment bas, l'augmentation de prix n'est plus portée davantage. Donc, on atteint un petit peu la limite de l'effet de levier du taux d'intérêt bas.
En tout cas, un grand merci pour tous ces détails, Frédéric Violo. Je rappelle que vous êtes notaire et président de l'Institut notarial du droit immobilier. Un grand merci d'avoir été notre invité. Moi, je vous dis à jeudi, puisque demain soir, grande soirée de football, bien évidemment autour du Paris Saint-Germain, à suivre en direct et en intégralité sur Europe
1. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouvera en revanche demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez transport public. Comment s'adapter à la généralisation du télétravail? C'est l'une des questions que vous poserez à la patronne de Keolis, l'un des leaders du secteur. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les Échos. Relance, la France veut aller plus vite et plus fort, titre le quotidien économique. On vous en parlait dans le journal. Paris va présenter demain son programme d'investissement à Bruxelles et Bercy espère un déblocage rapide des fonds européens après avoir signé une trêve avec la Commission sur les réformes sensibles, à commencer par celle des retraites. Le gouvernement plaide pour un nouveau plan d'investissement européen sur 10 ans pour suivre l'exemple de Biden, écrivent les Échos. Le président américain que l'on retrouve dans l'édito de La Croix. Joe Biden envisage de taxer lourdement les revenus du capital aux États-Unis, un tournant au pays de l'oncle Sam et par contagion pour les économies occidentales qui depuis 4 décennies ont appliqué à la lettre la logique libérale de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Deux facteurs expliquent cette évolution, analyse Guillaume Goubert. Le premier est évidemment conjoncturel, l'impact de la pandémie sur l'économie nécessite de trouver de nouvelles recettes pour restaurer l'activité. Le second est d'ordre structurel, la baisse continue des impôts a conduit à un spectaculaire accroissement des inégalités aux États-Unis et dans bien d'autres pays. En mettant en priorité les intérêts des couches intermédiaires et inférieures de la société, Joe Biden change la donne fiscale à l'échelle mondiale, conclut l'éditorialiste de La Croix. Joe Biden que l'on retrouve aussi à la une du Figaro, 100 jours de présidence hyperactive, titre le quotidien. Le 46e président des États-Unis a débuté son mandat à bride abattue avec un plan massif de vaccination et des mesures de relance plus radicales que ne s'y attendait le pays. Ce ne devait être qu'un président de transition, un vieux monsieur. En aucun cas, on ne devait s'attendre à un réformateur, encore moins à un visionnaire, écrit Philippe Guély dans son édito dans Le Figaro. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Exactement. Et nous, on se retrouve dans 30 minutes pour votre flash. À tout à l'heure.
Tout de suite.